Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale donne la parole à notre confrère Jean-Pierre Amissi Ramazani, qui vient de passer 3 mois en République centrafricaine. Un témoignage que je vous propose d'écouter sans plus tarder. Jean-Pierre Amissi Ramazani, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Jean-Pierre Amissi Ramazani, donc tout le monde vous connaît, vous êtes journaliste à la Radio des Nations Unies. Vous venez de passer donc 3 mois en République centrafricaine basée à Bangui. Bangui, à cause de la MINUSCA, donc cette mission des Nations Unies déployée en République centrafricaine en raison donc des violences et des problèmes que connaît le pays et les soubresauts que connaît ce pays depuis quelques mois. Alors tout d'abord, Jean-Pierre, comment s'est passée cette mission de façon générale? Comment vous êtes arrivé à Bangui et dans quel climat?
Alors Jérôme, je suis parti à Bangui, c'était en fin mars, pour aller apporter la contribution de la Radio des Nations Unies à l'unité de communication donc du Binuka. À ce moment-là, quand je partais, le bureau des Nations Unies pour la Centrafrique, qui était plutôt un bureau politique. Alors pendant ma présence là-bas, il y a des choses qui se sont bousculées, notamment concernant la flambée d'insécurité qui a continué donc en Centrafrique, avec les deux groupes antagonistes, notamment les ex-Séléka qui étaient au pouvoir à Bangui quand ils sont venus de leur base arrière du Tchad pour descendre et prendre le pouvoir à Bangui, militairement bien sûr. Après leur retrait, donc pendant ce temps-là, il y a eu aussi un autre groupe qui s'est créé d'autodéfense en fait populaire, hein, appelé Anti-Balaka. Donc pendant ma présence en Centrafrique, le bureau des Nations Unies qui était là, un bureau politique, s'est vu par la force des choses, hein, et des réalités sur le terrain, transformé par une décision du Conseil de sécurité ici en une mission des Nations Unies de maintien de la paix en Centrafrique. Ce processus a commencé et ce processus est encore en cours et il est prévu que tout ce processus, en fait, de l'implantation de cette mission puisse pouvoir arriver donc sur le terrain en septembre prochain.
Alors justement, donc, ce processus de passage donc, d'un bureau à une mission, donc, c'est un processus qui implique une présence à renforcer, notamment militaire. Ça implique aussi toute une organisation, toute une coordination. Comment vous avez pu témoigner, comment vous avez pu voir là-bas donc, du renforcement petit à petit des effectifs et de la mise en place donc, opérationnelle?
Oui, nous avons vu chaque jour qui passait des gens qui arrivaient, non seulement de New York, mais aussi des humanitaires. Parce que la mission est une mission en fait assez complexe qui embrasse plusieurs domaines, non seulement militaires, mais aussi sur le plan humanitaire aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'il y a cette insécurité, pendant qu'il y a ces affrontements, pendant qu'il y a des gens qui meurent à Bangui, la population est en train de payer un très lourd tribut de ce genre de conflit. Alors les humanitaires entrent en lice, etc., en ligne de compte. Tous ceux des humanitaires qui sont communément connus du système des Nations Unies, et même en dehors du système des Nations Unies, la Croix-Rouge et d'autres partenaires de ces humanitaires onusiens sont sur le terrain aujourd'hui. On voit des gens qui viennent, etc., pour essayer d'aider les populations centrafricaines. Côté militaire, dans le processus, il y a les forces en présence. Il y a d'abord la force qui s'appelle la MISCA, qui est la force militaire sous conduite africaine, des contingents venant des pays africains, comme par exemple la RDC, RD Congo, Congo-Brazzaville, Rwanda, Cameroun, et même Gabon par exemple, et même Tchad, même si aujourd'hui les Tchadiens ont retiré leur contingent pour des raisons diverses. Mais néanmoins, cette présence est là pour le moment. Mais il s'est fait que cette présence militaire est insuffisante par rapport aux défis, par rapport aux réalités, par rapport à l'ampleur du conflit.
Alors vous parliez justement de la dimension humaine, humanitaire. Est-ce que vous avez eu l'occasion, donc, au-delà donc, de Bangui où vous étiez basé, d'aller sur le terrain et de vous rendre compte de la situation des populations dans le pays?
Oui, j'ai eu l'occasion de voyager, de couvrir d'abord la situation pour la Radio des Nations Unies, la situation qui prévaut à Bangui. J'ai eu aussi l'occasion d'accompagner des humanitaires à l'intérieur du pays, au nord du pays principalement, à l'est du pays principalement. J'ai été dans une ville qui s'appelle Bangassou, donc au nord-est du pays. J'ai été aussi accompagné des autorités onusiennes, notamment Hervé Latsous, le patron donc, des opérations de maintien de la paix, dans une ville qui s'appelle au nord, qui s'appelle Kangabandoro. Donc j'ai accompagné aussi l'expert indépendante donc, des Nations Unies pour les droits de l'homme, en Centrafrique, à l'intérieur du pays également, et d'autres petites missions dans les alentours de Bangui, et même à Bangui même, pour voir un peu ce qu'il y a, donc les humanitaires qui essayent d'apporter de l'aide dans des conditions d'insécurité, principalement aux populations qui n'ont rien. Les gens n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Il y a des gens qui sont dans des camps de personnes déplacées, notamment tout près de l'aéroport de Bangui. Des dizaines de milliers de personnes sont là depuis quelques années, ne sachant pas où aller, et même l'ONU est embarrassée, parce que l'ONU, en essayant d'aider ces gens pour que ces gens rentrent chez eux, il y a des dangers, c'est-à-dire que ces gens sont menacés de mort, en fait, par les groupes en fait, majoritaires qui sont sur place, nommément, par exemple, par les anti-Balaka, qui s'opposent, en fait, aux gens qui sont de confession musulmane. Donc, ceux qui sont de confession musulmane se sentent en insécurité et se retrouvent dans des camps ou alors dans des quartiers retranchés, heureusement protégés par les forces de la MISCA, donc les troupes de l'Union africaine, pour sauver la vie de ces personnes. Et nous avons même assisté à un dilemme, en fait, onusien du système des Nations Unies, parce que je suis parti couvrir un jour une opération de relocalisation des musulmans dans le nord du pays. Bien sûr, c'est pour protéger la vie de ces gens, mais en même temps, l'ONU a été accusé, le système des Nations Unies en général, de contribuer à la partition du pays.
Démocratie! Béafrica!
Est-ce que de façon générale, le sentiment aujourd'hui est que la situation va se stabiliser? Est-ce qu'au contraire, il y a des craintes de voir encore une dégradation de cette situation?
La situation est assez mitigée. Pour quelqu'un qui visite, qui arrive à Bangui par exemple, il y a deux situations. Dès l'aéroport, moi, mon cas, je suis arrivé à l'aéroport ce jour-là, il y avait des coups de feu partout dans la ville. Donc nous sommes arrivés là-bas et je me demandais s'il fallait que je reste ou que je reparte avec l'avion qui m'a fait arriver donc à Bangui. Nous avons dû partir dans un convoi protégé par des militaires marocains, avec des blindés devant comme derrière, pour que nous puissions arriver au bureau de l'ONU là, et après être encore escortés militairement jusqu'à l'hôtel où nous devions rester pendant quelques semaines avant de trouver d'autres logements. Donc il y a des jours où tout est calme, où on se demande mais où est cette guerre, ce conflit dont on parle? Mais ce que les visiteurs vont seulement remarquer, c'est les checkpoints, notamment des blocages de rue, des militaires, etc. Il y a la MISCA, donc la force de sous-conduite africaine. Il y a aussi le fort qui protège l'aéroport aujourd'hui, la force européenne. Il y a aussi la Sangaris, qui est la force française qui patrouille dans les rues de Bangui. La force de la MISCA, dans ses composantes des différents pays, se sont répartis en fait différents quartiers pour protéger la ville, etc., etc. Mais il s'est fait que toutes ces forces, malgré leur présence, ne parviennent pas à arrêter ou à enrayer la violence qui soudainement éclate à Bangui dans certains quartiers.
Alors j'ai une question candide, est-ce que ces milieux se côtoient? Vous parlez de la Sangaris, vous parlez de la MISCA, de l'Euphor, des populations, des onusiens. Est-ce que quand même, en tant que citoyenne du monde, en tant que citoyen aussi de la RDC et fonctionnaire des Nations Unies, vous avez pu aller donc dans Bangui, marcher quand même, rencontrer les populations, aller acheter de quoi manger, aller vivre de façon normale après les heures de bureau ou dans le cadre des reportages?
Oui, bien sûr, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de coup de feu, tout est quasi normal. Donc on rencontre les centrafricains, on rencontre notamment des confrères journalistes centrafricains qui connaissent le terrain, qui nous amènent à des endroits beaucoup plus tranquilles où on prend un verre, disons-le, hein, on parle de la vie de tous les jours, où ils nous font découvrir de nouveaux coins, où on peut aller, disons, acheter de quoi manger, des choses comme ça. On partage des repas avec eux, etc. Donc, en temps normal, tout va bien. On va profiter de ce temps-là, notamment pour aller au bord de la rivière Oubangui. Ah, comme c'est beau, parce que de là, vous pouvez voir la RDC de l'autre côté, à une centaine de mètres, tout simplement. Donc, y a des moments où vraiment on se demande, mais les choses vont bien dans ce pays. Mais attention, parce que... À n'importe quel moment, tout peut éclater. On se retrouve encore dans une situation d'insécurité totale et tout le monde cherche à trouver un abri, à courir vite là où il habite.
Alors on a parlé des forces en présence, donc Sangaris, MISCA, Euphor, on a parlé des humanitaires, on a parlé de l'ONU. Il y a également un gouvernement donc, qui est un gouvernement provisoire, qui fait de son mieux. Quels sont les contacts avec ce gouvernement et quel est son rôle, quelle est finalement sa capacité de contrôler la situation?
Le gouvernement est un gouvernement, disons, comme ils disent là-bas, de transition en attendant les élections l'année prochaine. Mais entre-temps, le gouvernement n'a pas la force de pouvoir appliquer tous ces programmes vers les élections, ni la force de pouvoir seulement, diriger comme il se doit, en s'imposant par une force donnée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des forces internationales qui sont sur place, mais il y a malheureusement absence de la force de l'armée nationale, en fait. Parce que les militaires, les ex-FACA, en fait, hein, avec, comme vous savez, quand les Séléka, en fait, avant d'être ex, sont arrivés et ont pris le pouvoir à Bangui, ils ont désarmé, n'est-ce pas, l'armée nationale. Et aujourd'hui, cette armée nationale n'est plus que l'ombre d'elle-même parce que les militaires sont en uniforme, mais n'ont pas d'armes. Donc, avec ça, le gouvernement n'a pas la force de pouvoir, par exemple, s'imposer en neutralisant, par exemple, les milices qui sont vraiment armées, comme les anti-Balaka ou aujourd'hui les ex-Séléka. Donc, le pouvoir a des bonnes intentions. Madame la présidente Catherine Samba Panza fait de très beaux discours. Vous sentez la volonté de ses ministres de pouvoir travailler, mais le dénuement est là, total. Le pays est en crise totale. Sur le plan économique, il n'y a rien. Aujourd'hui, il faut une reprise économique. Sur le plan de la défense, il n'y a rien. Donc, voilà un gouvernement qui est là, de bonne volonté, mais sans moyens de sa politique.
Alors justement, vous parliez des élections qui sont censées avoir lieu donc l'an prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des éléments quand l'on commence à mettre en place pour ce processus électoral ou est-ce qu'on en est bien loin ?
On est loin de cette réalité-là. La volonté du gouvernement et de la communauté internationale, comme les Centrafricains à travers leurs dirigeants l'ont exprimé, c'est un gouvernement de transition pour aller vers les élections. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Ça, c'est la réalité. Les conditions ne sont pas réunies pour que, au début de l'année prochaine, on puisse penser aller aux élections, sauf miracle bien sûr, sauf un miracle onusien, parce que les forces de cette nouvelle mission onusienne, la MINUSCA, sont censées se déployer sur le terrain en septembre. Entre septembre et l'année prochaine, est-ce que les Centrafricains seront prêts ? Est-ce que les Centrafricains pourront se réconcilier pour enfin aller aux élections ? Mais aujourd'hui, pendant mon séjour là-bas, jusqu'au moment où je suis rentré à New York, je n'ai pas vu, je n'ai pas cru, je ne pense pas. Que les conditions sont pour le moment réunies ou qu'il y ait des prémices de solutions pour aller aux élections au début de l'année prochaine.
Justement, vous êtes Congolais, vous avez pu voir le poids de la guerre, les conséquences d'un conflit donc en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous diriez aux Centrafricains aujourd'hui pour justement éviter et de poursuivre une guerre civile qui, a priori, ne peut mener qu'au drame et finalement au chaos ?
Oui, comme vous le dites, en tant que Congolais de la RDC, mon pays a vécu et continue pour le moment encore, mais dans une moindre mesure, à vivre dans des conditions d'insécurité extrême, notamment à l'est du pays. Ce que j'ai vu en Centrafrique, je le compare un peu avec mon pays, parce qu'il y a des similitudes. Hein, quand les musulmans commencent à aller trouver refuge, disons, vers le nord du pays, le nord devient comme un nord musulman et le sud un sud, disons, chrétien. Ça me rappelle la période du RCD Goma, où le pays était divisé en deux. Donc je demande aux Centrafricains, comme beaucoup de gens de bonne volonté dans le pays, que vraiment qu'il y ait la réconciliation d'abord, hein, qu'on puisse essayer de se réconcilier et de préserver donc, l'unité nationale, comme les pères fondateurs même, Barthélemy Bouganda, hein, a lutté pour cela. Donc il y a la volonté de la communauté internationale qui est là, donc la communauté internationale est prête à aider les Centrafricains à garder cette unité-là. Et aussi, il y a une autre chose, c'est de pouvoir dire, par exemple, aux bonnes volontés qui pourraient en fait influencer la vie politique ou économique en Centrafrique, des pays voisins de la région, de contribuer, disons, franchement, à aider les Centrafricains à revenir vers des bons sentiments, à se pardonner, à se réconcilier et à préserver donc l'unité nationale de la RCA.
Jean-Pierre Missi Ramazani, merci. Je rappelle donc que vous rentrez de 3 mois de mission en République centrafricaine au sein donc du BINUCA et que vous nous parliez donc, vous présentiez un témoignage de première main de la situation dans le pays. Merci.
Merci Jérôme.
Voilà, et c'est ainsi que se referme ce magazine Escale dont l'invité cette semaine était Jean-Pierre Amissi Ramazani, de retour d'une mission en République centrafricaine. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec l'aide de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.